L'époque de Pâques suscite toujours chez moi des sentiments mélangés. Parce que d'un côté, c'est le moment où je pense à cet instant incroyable, extraordinaire dans toute l'histoire du monde, où Jésus est sur la croix et je suis là en bas et je retiens mon souffle au moment où je l'entends dire « Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains, tout est accompli. » Et il baisse la tête. C'est un moment où je retiens mon souffle d'admiration, d'attention. Mais en même temps, Pâques, c'est le moment où quand je me promène en ville, on parle des lapins en chocolat et des petits œufs. Autrefois, quand on parlait de Pâques, la première chose qui venait à l'esprit des gens, c'est la mort de Jésus, la résurrection. Aujourd'hui, parler de Pâques, c'est un week-end de congé, des lapins en chocolat, etc. Et quand je pense à la manière dont le christianisme a transformé Pâques dans quelque chose qui ne ressemble plus à Pâques d'aucune manière, j'ai l'impression d'avoir sous les yeux la réalisation d'une prophétie qui se trouve dans Zacharie au chapitre 13. Au verset 7, il est écrit ceci. Zacharie, chapitre 13, verset 7, dit « Épée, lève-toi sur mon berger et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le berger et que les brebis soient dispersées. » J'ai l'impression que dans le christianisme, les brebis sont dispersées, elles sont comme un troupeau sans berger. On aurait l'impression que c'est un troupeau dont le berger a été mis à mort il y a 2000 ans et que le berger n'est toujours pas vivant encore pour les conduire. On a l'impression que c'est un troupeau dans lequel chacun fait comme il lui semblait bon et va dans la direction où il a envie d'aller. Mais le berger est ressuscité, savez-vous ? Et ce berger-là a encore aujourd'hui l'intention de conduire son troupeau. La question est de savoir si vous voulez être l'une de ces brebis qu'il peut conduire. Jésus chantait. On sait qu'il chantait quand il était en train de travailler dans l'atelier de Joseph, qui est devenu probablement le sien. Il chantait. Il chantait des cantiques. Il chantait des cantiques pour changer l'atmosphère qui était autour de lui. Jésus chantait. Et on a ce passage dans l'Évangile selon Matthieu où il nous est dit qu'après avoir fait la Pâque, qui est devenue une annonce de son prochain retour et un mémorial de sa mort, ils ont chanté les cantiques. Et ces cantiques, nous les connaissons, nous en avons au moins les paroles, depuis le psaume 115 jusqu'au psaume 118. Ce sont les cantiques qu'il chantait au moment de Pâques. Jésus a chanté. On aura l'occasion sans aucun doute un jour de regarder ces cantiques d'un peu plus près, mais les autres psaumes sont en réalité les cantiques que Jésus chantait constamment. Jésus chantait « Je paierai cher pour entendre Jésus chanter ». Et je paierai très cher pour entendre Jésus chanter un cantique en particulier. Un cantique que nous récitons. Nous répétons machinalement les paroles de ce cantique. Lui ne récitait pas les paroles machinalement de ce cantique. Lui, il les chantait. Je vous dis, je paierai cher pour entendre cette mélodie de ce cantique et entendre la voix de Jésus qui chante. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus a chanté ce cantique je ne sais combien de fois, parce que pour lui, ça signifiait quelque chose quand il disait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ça signifiait quelque chose. Quand il disait « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça signifiait quelque chose quand il chantait ce cantique, parce que Jésus avait devant lui la perspective de ce que la prophétie avait annoncé à son sujet. Quand Jésus chantait, les autres chantait aussi avec lui parce que les psaumes, il les connaissait. Alors ce matin, en pensant à ce troupeau du christianisme qui semble dispersé et aller dans toutes les directions, je vous propose de tourner vos regards vers le psaume 23. Alors nous n'allons pas le chanter ensemble et je ne vais pas essayer de vous le chanter, ce serait une catastrophe, mais de regarder les paroles ensemble. Le psaume 23 commence par dire « L'Éternel est mon berger ». Vous remarquez, c'est le berger qui possède les brebis, ce ne sont pas les brebis qui possèdent le berger. Et quand je commence en disant « L'Éternel est mon berger », je suis en train de dire à qui j'appartiens. J'appartiens à l'Éternel. L'apôtre Paul disait « Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. L'Éternel est mon berger ». Et déjà, lorsque le Seigneur me dit « Voilà, tu es une brebis », il me met dans une situation où j'ai besoin de quelqu'un. C'est moi qui ai un besoin, ce n'est pas lui. C'est moi qui ai besoin de lui. Et déjà, nous nous retrouvons dans une difficulté parce que aujourd'hui, c'est presque une valeur reconnue par tout le monde, dans le monde d'aujourd'hui, que nous voulons n'avoir besoin de rien ni de personne. On veut se débrouiller tout seul. Je n'ai pas besoin de vous. Je suis assez grand pour m'en sortir. Et vous savez, vos parents, à quel point c'est une chose qui prend les enfants très tôt. Je peux me débrouiller tout seul. Mais non, papa va t'aider. Non, je vais me débrouiller tout seul. Et jusque dans notre âge adulte, c'est ce que nous vivons. Je n'ai besoin de rien et je n'ai besoin de personne. Ça ne vous rappelle pas une lettre que Jésus a envoyée un jour à une église qui s'appelait Laodicée, qui disait « Moi, je n'ai besoin de rien, je me débrouille toute seule. L'Éternel est mon berger. » Jésus s'est présenté dans les évangiles comme notre berger. Ce n'est pas une image qu'il a inventée. L'Ancien Testament est plein de ces images du berger, Dieu qui conduit son troupeau. Mais déjà, lorsque cette image est présentée, c'est une image dans laquelle Dieu nous dit « Vous êtes des brebis, vous êtes des moutons. » C'est gentil les moutons, c'est mignon, mais c'est pas très malin, vous savez. C'est pas les bêtes les plus intelligentes qui existent sur la terre. Et c'est ce que nous sommes. D'ailleurs, les brebis, les moutons sont connus pour cet instinct grégaire. Cet instinct qui porte le nom d'ailleurs des brebis dans le latin. Cet instinct qui veut que quand une brebis fait quelque chose, elles vont toutes faire la même chose. Si elles sautent en bas de la falaise, elles vont tous sauter. S'ils vont manger dans une direction, elles vont toutes manger dans la même direction, jusqu'à ce que, pour une raison inconnue, il y en a une qui tourne et toutes vont tourner. L'instinct grégaire. Nous avons cet instinct-là très fort, vous savez. Et pourtant, nous sommes terriblement incohérents. Parce que nous avons horreur qu'on nous prenne pour quelqu'un d'autre. Interrogez un enfant et adressez-vous à lui en employant le nom d'un autre. Vous allez voir, il va vous corriger. Non, je ne suis pas un tel, moi c'est moi. Et la société d'aujourd'hui nous dit, nous sommes tous des êtres individuels, nous sommes tous différents, nous sommes tous... Et c'est vrai. Mais en même temps, nous voulons tous faire la même chose. Nous voulons tous être habillés de la même manière, nous voulons tous avoir les mêmes choses, nous voulons tous faire comme tout le monde. Et quand, pour une raison ou une autre, notre christianisme nous amène à être différents, on va lui apporter toutes les nuances qu'il faut pour qu'on puisse ressembler quand même aux autres. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours, littéraux, récemment, il n'y a pas longtemps, à peine 6 000 ans peut-être. Mais le christianisme va dire, mais on va mettre un Big Bang là-dedans pour que ça ressemble un petit peu à ce que les scientifiques racontent au sujet de l'origine du monde, pour faire que ça ressemble quand même un petit peu, qu'on n'ait pas l'air trop différent, comme venant d'une autre planète. Le rôle de l'homme et de la femme dans la famille, ou le rôle de l'homme et de la femme à l'intérieur de l'Église, C'est curieux comme on va prendre les rôles qui sont définis par la culture pour les introduire dans nos familles et dans l'Église, pour que ça soit quand même pas trop différent. Nos manières de vivre, nos manières d'être, la mode que l'on suit avec facilité finalement, fait que nous sommes incohérents ou dans un sens nous voulons être totalement différents, moi c'est moi, toi t'es toi, mais d'un autre côté on veut faire le plus possible comme tout le monde, comme les brebis finalement. Mais alors si Jésus est notre berger, est-ce que ce ne sont pas les valeurs du berger que nous sommes invités à suivre plutôt que les valeurs d'un monde qui n'a plus de berger? Si véritablement Jésus, nous le considérons comme notre berger, est-ce que ce n'est pas lui que nous devons suivre finalement après tout? Ou bien alors, si vous voulez que je présente les choses d'une autre manière, nous avons accepté Jésus comme notre sauveur, pas de problème. Est-ce que nous l'avons accepté aussi comme notre Seigneur, celui qui dirige, celui qui conduit, celui qui règne? Ce sont deux choses différentes. Si nous avons accepté Jésus comme notre sauveur, nous avons fait avec lui une alliance d'appartenance. Nous lui appartenons. Nous avons fait une alliance avec lui. Et si nous sommes son troupeau, si nous sommes ses brebis, alors sans aucun doute nous avons été marqués par lui comme sa propriété. Vous savez, les troupeaux, les animaux, les brebis, les bœufs, ils ont tous des marques pour savoir exactement qui est leur propriétaire. Autrefois, on le faisait à la peinture, ou on taillait un morceau dans l'oreille. Aujourd'hui, ils ont quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, mais ça revient au même. Il y a la marque du propriétaire. Est-ce que nous sommes prêts à porter la marque de notre propriétaire? Est-ce que la marque de notre propriétaire est visible en nous? Et je reconnais que bien souvent, je suis une brebis qui court à droite, à gauche, et on n'est pas toujours sûr qui est mon propriétaire. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Prenez avec moi ce texte dans l'Épître aux Colossiens, voulez-vous? Épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2. Il y a là une phrase qui est tellement claire et tellement forte que je ne résiste pas à la tentation de la lire avec vous. Colossiens chapitre 2, au verset 10. Colossiens chapitre 2, verset 10, il est dit « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Vous avez tout pleinement en lui. Vous n'avez pas seulement tout, mais vous avez tout dans toute la mesure en lui. Il vous le donne. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ou bien alors dans l'évangile de Jean au chapitre 1, il nous est dit « Et nous avons tous reçu sa plénitude, grâce pour grâce. Grâce sur grâce, ajoutées les unes sur les autres. Nous avons tous reçu sa plénitude, celle de Jésus. » Mais alors effectivement, s'il est notre berger et qu'il nous a tout donné, ben qu'est-ce qu'il nous faut encore? C'est un peu ce que l'on trouve dans l'expérience de Paul qui priait, qui demandait, l'apôtre demandait à Dieu avec supplication, nous dit le texte de 2 Corinthiens 12, de lui enlever les chardes qu'il avait dans la chair. Réponse de Jésus, ma grâce te suffit. Tu as déjà tout, tu as déjà l'essentiel. Le reste, laisse faire pour un moment. Jésus avait promis à ses disciples que ses promesses allaient se réaliser si on met les priorités dans le bon sens. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et c'est vrai. C'est vrai que souvent, je suis tenté de chercher ce qu'il y a par-dessus et de mettre le royaume de Dieu après, pour être sûr de l'avoir et de le garder. Finalement, c'est une question de foi dans le berger. D'être sûr d'avoir Jésus comme notre berger d'abord et de dire, puisque Jésus a tout et que je suis sa brebis, eh bien, il va me donner tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a va être à ma disposition. Et nous avons du mal, et vous savez, je suis le premier à avoir du mal à être content de ce que j'ai. Parce que je suis un spécialiste à voir l'herbe verte de l'autre côté de la barrière et à vouloir ceci. Et nous sommes tous à vouloir mieux et plus et encore et d'avoir des réflexions qui sont chargées de « si ». Ah, si j'avais un meilleur travail, si j'avais un meilleur mari, si j'avais une meilleure femme, si j'avais une plus grande maison, si j'avais une meilleure voiture, si j'avais des enfants sages, si, ça irait mieux, n'est-ce pas ? L'apôtre Paul disait, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et lorsque Dieu me dit que je ne manquerai de rien, alors il me demande simplement de faire confiance à mon berger, si vraiment je suis sa brebis. Je t'ai dit que tu ne manqueras de rien. Je ne manquerai de rien. C'est un acte de foi dans le berger à qui j'appartiens. Dans le psaume 23 se trouve encore cette phrase au verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Le berger, il va s'arranger pour donner à manger et à boire à ses brebis. Et je vous disais, cette image du berger et des moutons, elle n'est pas nouvelle à Jésus. Regardez dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 34. La même image est en fait développée là, plus encore que dans le psaume 23. Tout le chapitre y est consacré. Mais j'aimerais simplement relire un ou deux passages dans Ézéchiel, chapitre 34, à partir du verset 13. Il est dit, je les rassemblerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, je les ramènerai dans le pays, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. Elles ont besoin de pouvoir manger quelque chose qui tient au ventre. Pas de la paille sèche qui a traîné dans des greniers pendant des mois d'hiver. Le bon berger donne à manger à ses brebis. Il leur donne à boire. Et vous savez comment dans la parole de Dieu, la nourriture et la boisson nous rapportent toujours à la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est cette nourriture. Jésus disait, je suis le pain de vie. À la Samaritaine, il disait qu'il est capable de donner cette eau vivifiante qu'elle n'avait pas. Jésus, qui est le bon berger, veut nourrir ses brebis. Il peut trouver pour chacune d'elles un pâturage extraordinaire. Mais si elles ne veulent pas manger, le berger ne peut pas manger pour elles. Regardez quelques psaumes plus loin dans le psaume 36. Comment cette même image est encore employée? Psaume 36, regardez le verset 9 et 10 avec moi. Psaume 36, verset 9 et 10. Il est question de nous, des fils de l'homme, chacun d'entre nous. Il se rassasie de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi, est la source de vie. Le Seigneur, lorsqu'il nous donne à manger, lorsqu'il nous plonge dans la nourriture de sa parole, il nous donne quelque chose de bon à manger, quelque chose qui nous fait du bien. Et vous avez remarqué, le texte dit, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. » C'est-à-dire qu'il m'amène à sa parole, il me donne à manger, et puis après, les brebis, elles se reposent. Et elles ruminent ce qu'elles ont mangé, n'est-ce pas? Alors le matin, quand vous vous approchez de Dieu et du Seigneur Jésus par sa parole, est-ce que vous prenez après le temps de vous reposer et de savourer sa parole encore pendant la journée? C'est ce que le Seigneur nous propose de faire avec ces gens qui ruminent la parole et qui en profitent finalement beaucoup mieux que ceux qui avalent ça tout rond. Dans le psaume 90, il est dit « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » La nourriture qu'est la parole de Dieu est destinée à nous remplir de joie. Peut-être que nous ne la mastiquons pas assez. Peut-être que nous n'en mangeons pas assez. Peut-être que nous avons cette nourriture sous la forme de plats déjà tout prêts qu'on met dans le micro-ondes spirituel et qu'on ingurgite vite le matin, peut-être avant de partir, pour avoir quand même une dose de quelque chose. Mais c'est un plat préparé, c'est du réchauffé, c'est... Non, c'est pas un vrai repas, vous comprenez? Et puis, il nous est dit qu'il nous conduit près des eaux paisibles. Les moutons ne peuvent pas boire un torrent tumultueux. Il faut qu'ils aient quelque chose de paisible et de tranquille. D'ailleurs, les disciples de Jésus ont beaucoup de mal à fonctionner dans la tempête. Et moi aussi. Quand la tempête bouge dans ma vie, j'ai beaucoup de difficultés. Et vous vous souvenez de cet événement qui est raconté dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, où c'était la tempête pour les disciples et Jésus, lui, dormait dans la tempête. La tempête n'était pas un problème. Il dormait dans la tempête. Et les disciples paniqués, j'aurais été parmi eux, auraient été secoués. Écoute, fais quelque chose, on est en train de mourir, tu dors ou quoi? Et Jésus va se lever, apaiser la tempête. Et le texte nous dit qu'ils ont abordé là où ils allaient. Et quand enfin la tempête se calme, on va beaucoup mieux, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là qu'on peut boire la parole de nouveau et savourer ce que le Seigneur a placé là pour nous. Nous sommes comme des brebis qui avons du mal à nous désaltérer dans la tempête. C'est difficile. Il va falloir que le Seigneur calme la tempête pour qu'on puisse boire quelque chose de rafraîchissant. Jésus disait, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. On va manger quand on a faim, on va boire quand on a soif. Même si la meilleure boisson est là, même si le meilleur pâturage est là, et que la brebis refuse de manger ou de boire, elle ne profitera pas de ce que le Seigneur lui a donné. Et je dois avouer que nous sommes souvent des brebis qui avons ce qu'il y a de mieux. Nous avons sa parole. Nous avons encore en plus des témoignages pour les derniers temps. Nous avons une super parole. Mais c'est parfois difficile d'aller nous nourrir. C'est parfois difficile d'aller boire parce que on n'a pas le temps. Psaume 23 nous dit « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. » Les bergers racontent que lorsqu'une brebis est couchée sur le côté et que par malheur elle roule sur le dos et que ses pattes n'ont plus contact avec le sol, elle n'arrive pas à se remettre sur ses pieds. Il va falloir l'aider à se remettre sur ses pattes. Et lorsqu'une brebis, disent les bergers, est sur le dos pendant un moment et qu'elle n'arrive pas à se remettre sur ses pattes, elle panique, elle pédale en l'air pour rien du tout. Et ça aggrave sa situation. Et vous savez, je me retrouve dans cette situation-là. Combien de fois est-ce que je suis sur le dos sans pouvoir me remettre sur mes pieds en demandant au Seigneur, « Hé, berger, viens donc m'aider à me remettre sur pied, s'il te plaît. » Est-ce que vous n'êtes pas aussi dans cette situation-là d'être sur le dos, pas capable de vous remettre sur vos pieds? Il va falloir que le berger vienne nous remettre sur nos pieds et nous aide à marcher de nouveau. Et curieusement, les bergers disent, lorsqu'on les remet sur leurs pieds, aussitôt sur leurs pieds, elles commencent à courir n'importe où. Et elles partent dans tous les sens. David écrivait, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. » Les brebis courent partout. Mais ce n'est pas une bonne idée. Il y a des sentiers où il faut aller, des sentiers où il ne faut pas aller. Alors le berger, il nous invite à ce qu'on le suive. Pas nécessairement à ce que le berger court constamment derrière ses brebis pour les rattraper dans les fossés et dans les épines, mais suivre le berger. Dans le psaume 94, se trouve une parole encourageante pour ces brebis qui sont sur le dos et qui ont besoin d'avoir leur âme restaurée par l'intervention du berger. Psaume 94, au verset 18, il est écrit ceci. Quand je dis « mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » C'est le berger qui vient et qui remet sa brebis sur ses pieds. qui lui permet de retrouver sa voie. Mais vous savez, ces brebis qui courent dans tous les sens ont besoin d'être conduites dans le sentier de la justice. Dans les Proverbes, il est dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Nous courons dans un sentier qui nous paraît bien, mais nous n'avons pas suivi le berger, nous avons demandé au berger de nous suivre. Alors le berger vient et nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Si véritablement l'Éternel est notre berger, le mieux que nous ayons à faire, c'est de suivre le berger, n'est-ce pas? Le psaume 25, juste une page plus loin, nous donne encore ce conseil. Regardez dans le psaume 25, le verset 9 et 10. Psaume 25, verset 9 et 10, où il est dit « Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. » Des sentiers de fidélité et de miséricorde. Parce que les chemins dans lesquels le berger nous conduit sont toujours des chemins qui sont bons pour nous. Il les connaît. D'ailleurs, il est venu et il a fait ces chemins-là avant nous. Nécessaire parce que il va falloir qu'il sache où sont les pâturages dont nous avons besoin. Il est parfois difficile de renoncer et de suivre. Nous voulons être ceux qui conduisent. Nous voulons avoir nos droits, nous ne voulons pas être derrière, nous voulons être devant. Nous n'aimons pas être le dernier à la queue. Nous voulons être reconnus, nous voulons qu'on dise « ça c'était mon idée, ça c'est mon plan, ça c'est moi qui l'ai fait ». Nous avons du mal à être celui qui suit, du verbe suivre, celui qui suit, du verbe être. Le psaume 23 continue en disant, au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, les brebis doivent de temps en temps descendre des vallées pour pouvoir aller vers d'autres pâturages. Elles aiment bien ces grands pâturages verts et tranquilles où elles peuvent se reposer, mais tout d'un coup, quand il faut descendre les pentes escarpées d'un ravin pour aller de l'autre côté, elles pensent que c'est la vallée de l'ombre de la mort et qu'elles n'en sortiront jamais. Vous n'avez jamais traversé des vallées comme ça, vous? C'est en tout cas l'impression qu'elles ont. Mais le psaume nous dit, je les traverse, mais je crois que ça mène à la mort, mais le berger me conduit et me permet de remonter de l'autre côté. Et il a comme outil pour me conduire un bâton et une houlette. Le bâton du berger, ce sont deux mots différents. L'un, c'est le bâton du berger, l'autre, c'est le bâton du vieillard sur lequel on s'appuie. Dans le psaume 138, le psalmiste encore exprime sa confiance dans celui chez qui il peut trouver le réconfort, quand ça ne va plus. Psaume 138, regardez le verset 7, où il est dit « Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. » Quand je marche au milieu de la détresse, il y a toujours un moment ou un autre dans notre existence où nous marchons au milieu de la détresse, où nous avons l'impression que le ravin va nous conduire dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais David dit « Si je ne crains aucun mal, ton bâton est ta houlette. » Et je me souviens de ce bâton qui était dans la main de Moïse et qui a été dès le départ l'outil que Dieu a utilisé pour accomplir des miracles en faveur du peuple. Ce bâton qui a jeté les plaies sur l'Égypte, mais c'est ce même bâton qui a ouvert la mer Rouge pour qu'il puisse traverser. Ce bâton qui leur a donné l'eau du rocher, ce bâton qui les a conduits, c'est cette houlette du berger. Parce que au bout de cette houlette, il y a comme ce crochet par lequel il retient certaines brebis, par lesquelles il les conduit. Et puis, ce bâton sert aussi à quelque chose, parce que dans les Écritures, le bâton est associé encore non seulement à la direction, non seulement à la protection, mais encore à autre chose. Regardez dans Ézéchiel au chapitre 20. Ézéchiel chapitre 20 au verset 37. Nous trouvons cette dimension nouvelle qui est aussi une réalité au sein du troupeau. Ézéchiel chapitre 20, le verset 37, il est écrit ceci. « Je vous ferai passer sous mon bâton et je vous mettrai dans le lien de l'alliance, sous le bâton du jugement. Je vous ferai passer sous mon bâton et je vous ramènerai dans les liens de l'alliance, » dit la Bible 21. C'est parce que de temps en temps, le bâton, c'est le bâton du jugement de Dieu. Parce que nous sommes partis à droite, à gauche, apeurés par la vallée de l'ombre de la mort. Alors, il nous ramène, il nous fait passer par son jugement. Et il nous ramène dans les liens de l'alliance. Nous avons fait alliance avec lui. Nous avons accepté qu'il soit notre berger. Nous sommes attachés à lui par une alliance éternelle. Mais parfois, nous avons oublié cette alliance et nous voulons nous débrouiller tout seuls. Alors, ce bâton, il est l'annonce du jugement de Dieu, mais le jugement de Dieu est bonne nouvelle. Relisez le psaume 98. C'est la bonne nouvelle, le monde entier se réjouit du jugement de Dieu parce que c'est le moment où Dieu rassemble ses enfants, le jugement. Mais c'est aussi le bâton de la discipline. Les moutons ont du mal à être disciplinés. Et le berger a besoin de discipliner ses brebis pour qu'elles marchent dans la fidélité. Et vous savez, vous avez sans doute reconnu comme moi que les difficultés que nous rencontrons souvent sont un moyen que le Seigneur utilise pour mettre à l'épreuve notre discipline. Notre discipline. Le psaume 23 nous dit au verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Tu dresses une table. Et cette fois-ci, l'image change. Une autre image qui est répandue dans toutes les Écritures, c'est l'image du repas. Une table en face de mes adversaires. Pourquoi une table en face de mes adversaires ? La table, c'est d'abord le lieu où l'on mange. Le berger propose un repas à ses brebis. Et le repas dans les Écritures est extrêmement significatif. On le retrouve à plusieurs endroits. Regardez par exemple un endroit très significatif dans Exode au chapitre 24. Exode chapitre 24. Il est ici question de cette loi que Dieu va donner à son peuple au verset 7, il est dit, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Et au verset 9, il est dit, Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu, les 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Verset 11, il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, ils mangèrent et ils burent. Le repas dans les Écritures, c'est ce que l'on partage avec quelqu'un avec qui on fait alliance. Le repas de l'alliance. Alors tout d'un coup, vous pensez à ce repas de l'alliance qu'est la Pâque, que Jésus a transformé en Sainte Cène, et durant lequel il disait « Voici, ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour beaucoup. » Le repas, c'est ce que l'on partage avec celui avec qui on s'associe. Et puis, vous vous souvenez, dans la livre de l'Apocalypse, Jésus dit, « Je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est une alliance réciproque, c'est une alliance dans laquelle l'engagement va dans les deux sens. Alors, quand dans le psaume 23, il est dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Quelle est la meilleure défense contre les adversaires ? Qu'est-ce qui va dissuader l'adversaire ? C'est de voir que chacun d'entre nous sommes dans une alliance comme ça avec le berger. Mais si nous sommes dans cette alliance si proche et si forte avec le berger, l'adversaire, qu'est-ce qu'il peut faire ? La seule chose qu'il peut faire, et le mieux qu'il ait faire, c'est prendre les jambes à son cou et d'étaler loin de nous. Cette alliance que le Seigneur nous a proposée, c'est la meilleure défense que nous ayons contre l'ennemi. Parce que s'il est avec nous, qui ? Mais qui sera contre nous ? Cette alliance, elle est extraordinaire, elle se manifeste par un repas. Et quand on pense à ce repas que Jésus a offert à ses disciples, c'est un repas très spécial dans lequel il se donne lui-même à manger. Dans le psaume 23, il est dit, au verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » L'huile, dans les Écritures, vous reconnaissez le symbole du Saint-Esprit. On va oindre les rois, oindre les prêtres, oindre les prophètes. Et nous avons sans aucun doute, à la fin des temps, un rôle de prophète et un rôle de sacrificateur. Mais cette onction du Saint-Esprit, elle est nécessaire parce que nous avons besoin, au travers de cette onction, de recevoir toute l'abondance dont il était question dans le verset 2. « Je ne manquerai de rien. Comment Dieu va-t-il nous donner cette abondance ?» Dans le journal « Signe des temps » du 21 novembre 1892, je lis cette phrase. « Quand nous présenterons à Dieu notre nature vide, débarrassée du moi, alors il comblera le vide par son Saint-Esprit et nous remplira de sa plénitude. » Pour qu'il nous remplisse, il va falloir faire du vide, vous comprenez ? Et c'est peut-être ce que nous avons le plus de difficultés à faire. Ma coupe déborde. Mais si elle est remplie de nos désirs, de nos envies, de nos rêves, de nos projets, remplie de nous-mêmes, qu'est-ce que vous pensez que le Seigneur va pouvoir y mettre ? Il va falloir qu'on vide tout ça d'abord pour que la coupe déborde des grâces que le Seigneur a en réserve à l'infini, nous dit-il. Alors dans le psaume 23, il est dit au verset 6, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Le mot orek va beaucoup plus loin que la fin de mes jours. C'est un mot qui désigne l'infini. Et bien entendu, lorsque l'on parle d'habiter dans la maison de l'Éternel, on parle plus que de venir dans son temple. On parle d'être dans sa bergerie. Et vous vous souvenez de ce qui est écrit dans le psaume 27, un peu plus loin, où David dit lui-même, au verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. » Et vous vous souvenez dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, il nous est raconté que Jésus discutait du temple avec les gens de son temps et qu'il ne comprenait pas comment ils allaient détruire le temple et que lui allait le reconstruire en 3 jours. Et Jean leur dit, il parlait de son corps, de son temple. C'est lui le temple. Lorsqu'à la fin de ce psaume, il est dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mes amis, quand on y réfléchit, si la grâce nous abandonne un jour, c'est fini pour nous. Nous avons besoin de cette grâce omniprésente, nous avons besoin de cette grâce permanente, nous avons besoin de cette grâce et de cet amour de Dieu qui nous rejoint chaque jour. Alors nous ne pouvons pas avancer un jour sans sa grâce. Et à force de saisir sa grâce, le bonheur va nous accompagner de la même manière. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, dans la version anglaise, pour toujours. Le berger, c'est celui qui conduit ses troupeaux, c'est celui qui conduit ses animaux, ses brebis, ses agneaux. Il voudrait qu'on le suive et nous sommes en marche vers la bergerie. Dans Apocalypse, il nous dit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. » Nous sommes en marche et si l'Éternel est notre berger, alors nous sommes invités à le suivre. Parce que c'est lui qui montre le chemin, c'est lui qui satisfait tous nos besoins. Oh, peut-être pas toujours selon nos plans, mais selon le sien. Nous sommes en marche, mes amis, vers sa bergerie éternelle. Serez-vous ces brebis-là pour ce berger-là ?